Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
L'air en forme, je te relaxe.
Y a quelqu'un.
Comment on va être bien ici?
Psst, l'été comme jamais.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Souvent, une photo grandiose prise au bout du monde donne des envies immédiates de voyage. Et parfois, c'est exactement le contraire. On est subjugué par la beauté du cliché, mais soulagé de ne pas être là où se déroule la scène. Exemple, un mérou est en train de se faire croquer par un requin gris qui ouvre grand sa mâchoire, tandis que des centaines d'autres requins autour se cambrent et tentent de lui arracher sa proie. Ce ballet sous-marin est d'une beauté rare, mais je reste là où je suis et me contente de regarder la photo bien au sec, merci beaucoup. Pour autant, il ne s'agit pas d'en avoir peur. Les requins sont indispensables à la régulation des fonds marins et c'est leur disparition qui serait dramatique. Même chose pour tous les animaux qui nous terrifient d'ailleurs. Les scènes de la vie sauvage doivent nous rassurer, pas nous faire trembler. Alors posons-nous la question ce matin. Qu'avons-nous à apprendre des animaux sauvages? Soyez les bienvenus.
Dorothée Barba, 9h-11h sur France Inter.
Cette première heure d'émission est la vôtre, chers auditeurs et auditrices. Appelez-nous au 01 45 24 7000. Dites-nous, par exemple, si les animaux sauvages vous font peur. Et si oui, lesquels? Bonjour Laurent Balesta.
Bonjour.
Je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes photographe, naturaliste, plongeur. Vous avez 33 années de plongée dans les palmes, je crois. Et on peut admirer quelques-unes de vos photos dans le nouvel album de RSF, Reporters sans frontières. C'est l'occasion de soutenir la liberté de la presse pour 9,90 €. En kiosque et en librairie. On y voit des requins donc, mais aussi des manchots empereurs, une méduse australe, une pieuvre de l'Antarctique, une crevette narvale, une grande rascasse rouge. Et j'en passe énormément. La palette des couleurs est complètement folle. Vous êtes également la vedette d'un livre pour enfants aux éditions Plume de Carotte. Découvre la vie sous-marine avec Laurent Balesta. Vous apprenez sur vous, sur l'espèce humaine en côtoyant les animaux sauvages?
Oui, on apprend... Il y a ces deux, la descente dans les profondeurs, c'est deux voyages. Il y a une sorte de voyage dans le temps, parce que c'est souvent au moins la sensation d'avoir tout à coup devant nous l'image de l'origine de la vie. Vous savez, quand je suis surtout à grande profondeur, dans ces écosystèmes très, très étonnants, où la vie est à la fois grouillante et en même temps pas tout à fait dissociée encore, où elle est diverse déjà, mais encore un peu difforme. Et voilà, et à ce moment-là, on sent que on comprend mieux peut-être que tout est parti d'un chaos, qui paradoxalement tend vers une harmonie. Alors voilà, moi j'ai l'impression que ça nous donne cette la vie est sortie des océans il y a 500 millions d'années, elle a atteint des sommets de perfection. On en oublie souvent sa genèse hasardeuse. Et je trouve que c'est pas mal d'aller voir ça. Ça nous rappelle à quel point on est là un peu par un coup de chance incroyable.
Et on se sent tout minuscule. Ma deuxième invitée est historienne des sciences et de l'environnement. Bonjour Valérie Chansigaud.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Les combats pour la nature, de la protection de la nature au progrès social. C'est le titre de votre dernier livre chez Buchet-Chastel. Alors on va tout de suite prendre des précautions avec la question que je voulais poser ce matin dans l'émission. Qu'avons-nous à apprendre, nous autres humains, des animaux sauvages? Vous avez sans doute envie de nous dire attention à l'anthropomorphisme.
Oui, en fait, quand on porte son regard sur les animaux sauvages, ça fonctionne un peu comme les tests qu'on a chez le psy. Vous savez, ces tâches où l'on cherche à reconnaître
des
une
formes.
Forme, et dès qu'on voit la forme, elle est là, c'est évident. C'est...
Et en fait, on ne peut plus ne pas la voir d'ailleurs.
Et c'est impossible. Et en fait, on fait la même chose avec les animaux, c'est-à-dire on projette sur eux ce qu'on a envie d'y voir. Pas forcément ce qu'ils sont, mais surtout ce qu'on a envie. En fait, les qualités que l'on a envie d'y trouver.
On va chercher chez telle ou telle espèce ce qui est commode pour appuyer un propos, par exemple.
Oui, exactement. Ou alors, on va imaginer que telle espèce, telle population, tel groupe d'animaux va fonctionner suivant tel ou tel principe. Je peux donner un exemple. Par exemple, pendant longtemps, on a beaucoup écrit sur la fidélité de certaines espèces d'oiseaux jusqu'à l'arrivée des tests ADN de paternité. Et là, on a découvert que le taux d'infidélité de ces espèces qui étaient dites tout à fait fidèle était loin d'être la règle.
Quelle déception.
Ah non, c'est
Laurent Balesta.
L'image, je crois que dans les tests ADN humains, qui sont pratiqués dans le médical, on s'aperçoit qu'il y a 10% d'enfants illégitimes. Mmh. Voilà.
Donc, ça nous replace dans la nature.
Deux, donc ça marche. Quoi.
Valérie Chansigaud, quand on parle d'animaux sauvages, on pense immédiatement aux loups, aux ours, aux requins. Vous vous dites aussi, c'est la fourmi, l'animal sauvage.
La fourmi, puis des choses encore pires, je dirais, au regard des...
Enfin, pour pire. Beaucoup de gens... Comment ça pire?
Au regard de beaucoup de gens. Par exemple, je m'intéresse beaucoup aux nématodes. Les nématodes sont des animaux parasites qu'on voit en général pas du tout. Et qui
des insectes
couvrent... Non, c'est vraiment c'est un groupe à part.
Des vers plats. Hein.
C'est des vers, effectivement, qui couvrent littéralement la planète. Il y a des spécialistes des nématodes qui considèrent que la planète est recouverte d'un film, de quelques microns de nématodes. Il y en a absolument partout. Et pourtant, c'est typiquement l'animal qui n'intéresse personne, sauf lorsqu'il pose un problème de santé humaine ou pour ses cultures ou son élevage. Mais c'est typiquement le genre de choses qu'on ne voit jamais. Et pourtant, ils sont là.
Ils sont là. Il y a des vedettes, des têtes d'affiche finalement dans le règne animal pour nous, grand public, mais aussi pour les scientifiques.
Alors, les scientifiques, en fait, quand on regarde les publications scientifiques, l'effort de recherche, comment en fait les scientifiques sélectionnent leurs sujets, on se rend compte qu'il y a les mêmes disparités, les mêmes discriminations que dans l'ensemble du public. On va vraiment se concentrer ses efforts sur certains type d'animaux. Et c'est assez logique. On n'imagine pas un enfant dire « Moi, plus tard, je veux étudier, je veux devenir zoologiste, je veux étudier les animaux. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je vais étudier les araignées. » Il va probablement plutôt étudier les requins, les pandas, les ours, les lions, enfin, des animaux valorisés. Mmh. Et on se rend compte, quand on remonte dans le temps, c'est que ce travers existait déjà chez nos ancêtres, parce que les peintures rupestres représentent, ne montrent que les mêmes types d'animaux, à savoir des gros animaux. Les insectes sont pratiquement absents, les plantes sont extrêmement rares, c'est toujours des grands mammifères, quelques oiseaux, et c'est tout.
Alors je me tourne évidemment vers le photographe plongeur Laurent Balesta. Il y a des espèces qui sont beaucoup plus photogéniques que d'autres.
Oui, c'est certain, mais...
Ou plus demandé de la part des éditeurs de vos livres, du grand public.
Non, parce que, en général, c'est plutôt dans l'autre sens. Je suis pas, hélas, à accepter des commandes. Mm. Voilà, je suis plutôt en train d'imposer mes choix et d'essayer de les faire passer. Mais, bien sûr qu'il y a des têtes d'affiches et ça m'a jamais fasciné. Mon premier plaisir, c'est l'exploration. Donc, c'est plutôt d'aller à la rencontre d'animaux un peu cryptiques, inconnus ou mal connus. C'est cela surtout qui m'intéresse.
Et les mal-aimés des profondeurs, vous avez une tendresse pour eux?
Les mal-aimés, c'est qui les mal-aimés?
Les requins moches.
Les moches. Oui, mais les moches, c'est très subjectif, bien tout sûr. Ça. Donc, il suffit que la lumière soit belle et que le contexte soit beau. Et souvent, vous savez, tous ces animaux qu'on dit moches, là, qui viennent des abysses, on les photographie sur le pont d'un chalutier, quoi. On photographie des cadavres. C'est rarement beau, un cadavre, quel qu'il soit, quand on voit la baudroie des profondeurs dans toute sa délicatesse, avec ses filaments lumineux, ça devient une œuvre d'art. Voilà. Il faut les remettre dans leur contexte. En tout cas, c'est ça ma démarche à moi. C'est vraiment d'aller les chercher dans leur contexte, à la limite de ce qu'on peut faire humainement à grande profondeur parfois, dans des conditions de froid un peu difficiles. Donc, d'aller les chercher dans leur univers. C'est là que tout à coup, ils prennent toutes leurs dimensions.
Allez, j'attends vos réactions, chers auditeurs, sur le site de France Inter, à la page de L'été comme jamais, ou par téléphone 01 45 24 7000. Quelle relation avons-nous avec les animaux sauvages?
Tu te rappelleras ce rêve capricieux. C'est là que palpitaient les arômes grimpants. De temps en temps passait un oiseau revêtu de lenteur et de pluie, son costume d'hiver. Tu te rappelleras les présents de la terre. Tu te rappelleras l'irascible parfum avec la fange d'or. Avec la fange d'or. Les herbes du buisson et les folles racines. Et les folles racines. sortilège d'épines pareil à l'épée. Ce fut alors comme jamais, comme toujours. Nous partons tous les deux vers le lieu sans retour. Pour y trouver tout ce qui est en train d'attendre. Ce fut alors comme jamais, comme toujours. Par toi, bouquet fait d'ombre et d'eau et de silence. Bouquet pareil à la pierre entourée d'écume. Tu te rappelleras, tu te rappelleras, tu te rappelleras les présents de la terre. Tu te rappelleras l'irascible parfum avec la fange d'or. Les herbes du buisson et les folles racines, et les folles racines. Sortilège d'épines et pareil à l'épée. Ce fut alors comme jamais, comme toujours. Nous partons tous les deux vers le lieu sans retour.
De son nouvel album, c'est O.O.H. Ézéchiel Payès sur France Inter, tu te rappelleras. Djoubaka a choisi la musique de l'été comme jamais. L'émission est préparée par Margot Page, réalisée par Anne-Cécile Perrin. Alexandre Chenet est à la technique.
L'été comme jamais. Dorothée Barba sur France Inter.
Une historienne des sciences et un plongeur naturaliste pour parler ce matin dans l'été comme jamais de notre relation avec les animaux sauvages. Valérie Chansigaud et Laurent Balesta sont mes invités. Laurent Balesta, vous avez récemment plongé au cœur d'une meute de requins et ça a donné lieu à un très beau documentaire.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où est la limite entre une vraie meute organisée et une anarchie totale. Là, je me dis que si c'était une meute de loups, les loups, on sait que c'est super organisé. Ouais. J'imagine qu'à ce moment-là, il y aurait une sorte de partage de la proie. Enfin, en tout cas, une priorité au chef de meute. Ouais. Ensuite, là, on voit quand même que... Je ne sais pas s'il y a des tactiques de chasse ensemble, mais au moment où une proie est saisie, il y a un côté un peu chacun pour soi, quand même.
Ça a l'air de plus de se disputer, plus qu'autre chose. Ouais, ouais.
700 requins dans cette meute, même pas peur. Nous sommes en Polynésie française.
Aussi, on avait peur au début.
Vous me rassurez.
Quand on l'a découverte, c'est paradoxal, hein, c'est un lieu très fréquenté. L'archipel des Tuamotu, l'atoll de Fakarava, c'est le tourisme, en tout cas jusqu'à peu, y était très facile. Mmh. Et pour autant, personne était allé voir de nuit ce qui se passait dans le petit chenal qui relie le lagon à l'océan.
Alors que se passe-t-il la nuit?
Ah bah c'est un spectacle fascinant, sidérant au sens strict. C'est ce moment où on ne bouge plus, où le gibier sait que le chasseur est là, le chasseur sait que le gibier et les deux ne font rien. Nous on était sidérés devant cette meute de requins quand on l'a découverte la première fois, la première année. C'était un spectacle tellement incroyable, qui nous dépassait tellement, qui avait jamais été documenté, puisqu'on nous dit toujours que les requins gris, la nuit, se dispersent au contraire. Et là, c'était une boule de requins qui chassaient tous ensemble. Alors voilà, c'était sidérant, inquiétant évidemment, mais la curiosité était telle que on y retournait tout doucement, on gardait nos distances, on s'inventait des règles, il faut pas qu'on touche le fond, il faut qu'on plonge à telle heure de la nuit, que quand le courant est comme ça, parce que on s'inventait des choses pour sans doute pour se donner un cadre qui nous paraissait comment raisonnable.
Pensez-vous que les requins ont eu peur de vous, Laurent Balestin ?
Non, ils ont ni eu peur, ni été excités. Ils étaient totalement indifférents à notre présence, dans le sens que ils savent qu'au moment où le soleil se couche, ils ont que 12 heures pour réussir à se nourrir et que la plupart d'entre eux au petit matin n'auront rien mangé encore une fois.
Et c'est bel et bien la stratégie de chasse qui vous intéressait.
On a fait plus de 350 heures, on a fait plus de 3000 heures de plongée et 350 heures de vidéos des scènes de chasse. Et donc ensuite ces scènes de chasse ont été observées par plusieurs spécialistes des requins pour aller voir un peu le comportement. Et on voit clairement que le requin tout seul, quand parfois il tente une hypothétique attaque et qu'il est tout seul, il rate systématiquement sa proie. Je crois qu'on a un cas où il a réussi à en attraper sur toutes ces années de plongée là-bas.
Donc par contre, c'est un travail d'équipe.
Ouais, dès qu'il commence à être plusieurs, qu'ils encerclent la proie, il y a souvent un rabatteur, un profiteur, enfin il y a plein de techniques qui se mettent, de tactiques qui se mettent en place, et là ça fonctionne. Alors c'est des tactiques inconscientes, hein. Ils se réunissent pas le soir pour dire bon, hier on a merdé les gars, Paul tu passes à gauche, moi je passerai à droite. Non, tout ça est assez instinctif, mais après tout une meute de loups, de mammifères, ces animaux si intelligents, ils se réunissent pas non plus, il y a quand même une part qui est très instinctive. Mais n'empêche que c'est une réalité de fait, dès qu'ils sont à plusieurs, la prise on a des taux de réussite jusqu'à 25%, ce qui est supérieur aux réussites d'une meute de loups.
Et pour autant, lorsqu'un requin attrape une proie, les autres se jettent sur lui pour essayer de la prendre.
La collaboration s'arrête net au moment où il y a une capture. Ensuite, c'est de la pure compétition. Ouais.
Alors évidemment, là encore, attention à l'anthropomorphisme, mais c'est tentant, Valérie Chansigaud, d'aller en tirer des conclusions, ce mélange magnifique entre coopération et chacun pour soi.
Et en même temps, il y a des exemples de coopération sans chacun pour soi. Par exemple, il y a des araignées sociales qui font non pas une toile isolée, mais une toile collective qui peut recouvrir, il faut imaginer, l'intégralité d'un arbre. Et il va y avoir des dizaines de milliers d'araignées sur cette toile. Et lorsqu'une proie se prend, en fait, c'est les araignées qui sont à proximité qui la mangent. Et si les grandes commencent à manger cette proie, et s'il y a une petite qui arrive, elles lui font de la place. Il n'y a absolument pas, c'est vraiment, alors là pour le coup, une société très anarchiste au sens de l'anarchisme politique, c'est-à-dire c'est un travail collectif sans pour autant développer la moindre organisation en quelque sorte verticale ou de spécifique qu'on peut avoir dans les insectes sociaux. Et d'ailleurs, ça posait beaucoup de problèmes à certains scientifiques qui ne considéraient pas ça comme des vraies sociétés parce qu'il n'y avait pas de chef.
Pensez-vous qu'au fond, les scientifiques, depuis fort longtemps, s'intéressent au fonctionnement social des animaux pour y voir un parallèle avec nous autres, les humains ? Valérie Chansigaud.
Oui, ça a toujours existé. Mm-hmm. On a toujours été, par exemple, l'abeille, par exemple, notamment l'abeille, a toujours servi comme modèle pour penser les sociétés. Et en fait, c'est une sorte de double transfert. C'est-à-dire, on voit dans l'abeille le modèle humain et on a envie que le modèle humain se façonne sur l'abeille. Et on ne sait pas qui influence quoi, mais c'est vraiment très très net depuis toujours.
Laurent Balesta, votre condition humaine vous préoccupait au fond de l'eau, au milieu des 700 requins?
C'est sûr qu'on se sent un peu vulnérable, forcément, et ça fait du bien, hein, je crois, de se sentir. Enfin, là, ces derniers temps, on a bien compris que l'espèce humaine était très vulnérable, d'ailleurs. Mais c'est des petites piqûres de rappel qui font du bien. Et puis, on parle toujours de nos technologies, de à quel point on est avancé, de cette capacité qu'on a eue d'aller sur la Lune, etc. Mais oui, mais dès qu'on ramène vraiment à notre entité organique, mais qu'est-ce qu'on est médiocre. Enfin, je veux dire, quand on voit ces animaux racés, musclés, tellement la perfection, c'est eux. Je veux dire, nous, à force de médecine super extraordinaire, de sécurité sociale et de gendarmes qui nous surveillent, je veux dire, c'est nous les vulnérables, vraiment.
Et d'ailleurs, quand on va très loin dans la technologie, dans l'innovation, c'est souvent qu'on s'inspire des espèces animales.
Donc, il y a quelque chose de comment dire, ouais, qui cette vulnérabilité qu'on ressent quand on est dans le monde sauvage, moi ça ne me fait que la contempler encore plus, quoi.
Notre relation aux animaux sauvages était au cœur des réflexions récemment avec le confinement, bien sûr, le coronavirus, la crise sanitaire. Quelle place pour les animaux en ville? C'est l'une des questions que cette crise a soulevée. On est en ligne à présent avec Joël Zask. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être en direct sur France Inter. Vous êtes professeur de philosophie à l'université d'Aix-Marseille. Vous allez publier le mois prochain un livre intitulé Zoo Cities, des animaux sauvages dans la ville. On a beaucoup entendu pendant le confinement que les animaux étaient de retour dans nos villes. Est-ce un phénomène massif ou plutôt anecdotique, Joël Zask?
Je pense qu'il est anecdotique en termes quantitatifs concernant les animaux en question, mais en revanche, concernant l'émoi qu'il a provoqué, il est massif. Et je crois que ça fait, c'est l'émoi que nous avons, la fascination, l'émerveillement, en fait, que beaucoup de gens ont éprouvé, et quelque chose qui est très émouvant et très, très fascinant pour le coup.
Quelques
et
exemples?
Ça apprend beaucoup, voilà. Ça peut être simplement un canard qui traverse un passage clouté, un paon qui est sorti de son parc à Lyon, quelques sangliers qui sortent des broussailles et qui arpentent les rues de Toulouse. Et partout dans le monde, des pangolins à Canberra, des oiseaux qui sont réapparus ou qu'on a entendus, alors qu'ils étaient sans doute là déjà. Voilà, donc c'est vraiment plutôt cette découverte que la ville est un havre possible pour les animaux et que la présence des animaux nous révèle ce que la ville a de... finalement de contraire à la vie, parce que la vie là de contraignant, de difficile à vivre en quelque sorte et d'autoritaire qui a, je pense, provoqué ce grand émerveillement.
L'idée d'une cohabitation en ville entre l'homme et l'animal est-elle saine ou complètement illusoire?
Je pense que cohabiter, bon, il y a évidemment le terme d'habitation, d'habiter. Non, je ne pense pas qu'on puisse habiter avec les animaux. Il faudrait sans doute aller à leur rencontre, il faudrait les connaître, les étudier, évidemment. Sans doute tenter d'abandonner aussi le plaquage anthropologique que nous faisons sur eux, nos idées très subjectives, nos hiérarchies, nos sentiments que l'homme n'est pas un animal comme les autres. Je rappelle que Aristote, par exemple, c'est très intéressant, il parlait des hommes et des autres animaux, et non pas nous, les hommes, et par ailleurs les animaux. Donc voilà, il y a quand même aussi une pensée de soi-même comme animal. Nous ne comprenons pas les animaux, mais les animaux ne se comprennent pas entre eux non plus. Enfin, donc voilà, il y a une forme de réégalisation peut-être à opérer. En revanche... De même que nous ne vivons pas tous les uns avec les autres et que nous ne sommes pas comme des abeilles dans une ruche, il y a des séparations à imaginer, il y a des protections. C'est-à-dire avec, disons, le confinement était lié à une trop grande promiscuité avec des animaux sauvages qui sont consommés, qui sont tués, qui sont enfermés vivants dans des cages. On peut penser aussi aux nouveaux animaux de compagnie qui posent d'énormes problèmes. Et donc la promiscuité, souvent avec les animaux, est responsable du coronavirus, de la Covid-19. Et serait responsable de beaucoup d'autres maladies si nous n'y prenons pas garde. Donc voilà, vivre avec les animaux, non. Mais en même temps, trouver un équilibre tel qu'il y ait une place pour les animaux sauvages dans nos villes qui sont en voie de verdissement, pourquoi pas? C'est la grande question qu'il faut se poser. Oui.
Cette crise sanitaire, finalement, elle a montré que les animaux s'en tirent mieux que nous face à l'adversité, si vous me permettez l'expression.
Alors, bon, ça dépend sans doute. Beaucoup d'animaux sont victimes de maladies, de bactéries en tout genre. Et par ailleurs, si on pense aux grands feux de forêt qui ont lieu en Australie, bon, qui, je me permets d'en parler dans la mesure où mon dernier livre, là, pour le coup, présent...
Quand la forêt brûle, effectivement. Ça évoquait cette prise de conscience suscitée par les grands incendies australiens.
Aussi, oui, ça a vraiment déclenché aussi quelque chose vis-à-vis des animaux. On a vu... ces incendies sont responsables de la mort de plus d'un milliard d'animaux. Donc là, en l'occurrence, tout le monde était logé à la même enseigne. C'est intéressant, le feu, là, pour le coup, élimine les différences. C'est-à-dire que un humain, comme une fourmi, seront complètement consumés par les flammes telles que celles qu'on a connues en Australie. Et donc il y a eu plusieurs aspects. D'une part, il y a eu effectivement le sauvetage d'animaux sauvages par l'intermédiaire des images assez spectaculaires et très très émouvantes, notamment vis-à-vis des koalas sauvés, des flammes et des brûlures par de bonnes âmes. Là, en l'occurrence, le spectacle était très peu en accord avec la nécessité dans laquelle on est d'agir pour cesser de provoquer ces grands feux de forêt, parce qu'il faut savoir, enfin, on l'a dit et redire, ces feux sont causés par les activités humaines. Mais de l'autre côté, il y a eu aussi énormément d'actions en faveur de, je dirais, des animaux, par exemple des largages de nourriture, et d'eau pour les animaux qui étaient restés vivants et qui ne trouvaient plus rien sur leur territoire à manger ou à boire. Donc voilà, il y a eu tous ces aspects qui se sont mélangés. Il y a eu aussi le problème des dromadaires qui s'est posé à peu près en même temps. C'est-à-dire ces dromadaires qui ont été importés par les colons en Australie depuis l'Inde et qui sont devenus féraux, sauvages, et qui forment le plus grand troupeau de dromadaires du monde, mais qui meurent de soif aujourd'hui dans le désert à cause du dérèglement climatique et qui ferrent l'eau à 6 km à la ronde, sur les climes, les tuyaux enterrés, etc., et entrent dans les villes à la recherche de l'eau. Donc que faire ? Voilà, donc ces aborigènes... Voilà, donc on a eu tous ces éléments, à mon avis, dont le feu de forêt était le révélateur, là, pour le coup. Et je pense qu'il joue un peu au même titre que le coronavirus. C'est-à-dire que...
Deux prises de conscience.
Fait, l'animal ne va pas se laisser, d'une certaine façon, mourir sans combattre pour sa vie, comme n'importe quel être vivant. Et on a aussi à prendre en considération, je dirais, le droit à la vie, en quelque sorte, des animaux sauvages, qui peuvent devenir par force nos voisins.
Merci.
En étant assez proches.
Merci beaucoup, Joël Zask. Quand la forêt brûle a obtenu, je le précise, le prix Pétrarque France Culture. Merci. 2020 du meilleur essai. Zoocities, des animaux sauvages dans la ville. Votre prochain livre sortira le 27 août, édition Premier Parallèle. Merci à vous et bonne journée. On parle de notre lien avec les animaux sauvages dans L'été comme jamais, avec le plongeur, photographe Laurent Balesta et l'historienne des sciences et de l'environnement Valérie Chansigaud.
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, il y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, il y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne, n'a pas plus l'air d'un assassin que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant. De voir tomber des têtes, à la fin ça m'embête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant, quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme, ce fils de rien, ce tout est pire, cette crapule au doux sourire, ce grand gosse au cœur tendre qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir de la France contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste, surtout qu'il soit fidèle, surtout je vous rappelle, à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon, qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne.
Dois-je vraiment le préciser ? C'était Barbara sur France Inter.
France Inter, l'été comme jamais.
Et voici Partir quand même. Vincent Josse nous fait voyager tout l'été en tendant son micro à des artistes. Ce matin, c'est la romancière Marie Dariussec qui choisit une image capable de la faire s'évader.
Cette image, c'est un tableau, une grande toile carrée de Emmeline Landon, qui est une amie peintre, qui était aussi l'épouse de Paul Ochakowski-Laurence, mon éditeur chez POL. C'est un tableau qui me fait voyager parce qu'on voit un bateau, que j'ai appelé longtemps un paquebot, mais Emmeline m'a dit pas du tout, c'est un vraquier. C'est donc un bateau qui transporte du vrac, des graines, du sable, des choses en vrac comme ça. Et ce bateau, il est au lac Gatun, dont je n'avais jamais entendu parler non plus. Et là, je vais lire un petit extrait de ce que Emmeline Landon a écrit dans son livre Marie Galante, où elle parle de son amour avec Paul et puis de ses voyages. Alors je lis. À 6h17, au lac Gatun, ce lac artificiel dans le canal de Panama, un vraquier attend avant de passer dans la dernière série d'écluses qui ramènent les navires au niveau de l'Atlantique. Tout le monde dort à bord, sauf le chef mécanicien qui s'apprête à fouiller dans les cabines des autres. Donc voilà, c'est un tableau qui s'accompagne aussi d'une histoire romanesque et vraie. Et c'est un tableau bleu, gris, blanc et noir. Au fond, on voit la forêt au bord du canal et des lacs donc de Panama, équatorial, très chaude, et c'est une eau très lisse, une eau de lac, mais qu'on sent irriguée par le voyage, quoi. Le canal de Panama, c'est quand même ce qui permet de passer du Grand Pacifique au Grand Atlantique. Et déjà, cette seule idée de traverser comme ça la masse énorme des continents, de relier les océans, ben ça, tout ça, ça me fait voyager. Moi, ce qui me fait voyager, c'est l'eau. Toujours, l'eau et le ciel. Et pendant le confinement, j'étais au bord de la mer, mais j'étais à plus de 1 km de la mer. Et donc, pendant ces 2 mois, on ne pouvait pas aller à la mer. Et ce tableau, qui était dans le salon, me faisait voyager. Voilà. Je m'asseyais devant le tableau et j'entrais dans le tableau. Et j'avais non seulement la mer, mais cette étrange géographie des lacs, des canaux et du ciel. Et je plongeais dans ce tableau.
Ce qui me fait voyager, c'est l'eau, disait à l'instant Marie Dariussec au micro de Vincent Josse. Ça tombe bien, je reçois Laurent Balesta ce matin, le plongeur photographe. Pour voir le tableau en question, rendez-vous sur le site de France Inter, à la page de Partir quand même, et retrouvez l'ami Vincent Josse ce soir à 22h, rediffusion du Grand Atelier avec Étienne Dao. Quel plaisir. Il est 9h42, vous écoutez L'été comme jamais, l'historienne Valérie Chansigaud et le plongeur Laurent Balesta sont avec moi. On parlait à l'instant, Laurent Balesta, de ce cahier Reporters sans frontières, cet album de photos, magnifiques photos prises dans le monde entier, toujours sous l'eau évidemment. Il y en a une qui me plaît particulièrement, c'est celle des chirurgiens bagnards. Est-ce que vous pourriez nous la décrire et nous la raconter, s'il vous plaît?
Je peux essayer. En tout cas, ouais, c'est la photo, c'est quoi? C'est une nuée de petits poissons bagnards, hein, donc des poissons blancs rayés de blanc.
En pyjama.
Petits poissons chirurgiens, ils sont des dizaines de milliers. Ils se regroupent soudainement, on dirait presque une génération spontanée. Une demi-heure avant, il n'y en a pas un, et puis tout à coup, ils sont tous ensemble au même endroit. Et en quelques minutes, c'est un feu d'artifice, ils foncent vers la surface et expulsent leurs œufs. Donc ça fait des espèces d'un feu d'artifice immaculé, des petits nuages blancs au milieu de l'eau.
Et évidemment, les nuages qu'on voit dans l'eau,
ouais, c'est ce qu'on voit.
Ce sont des œufs.
Ouais, tous ces petits nuages, ce sont des œufs.
On pourrait penser que ce sont les nuages dans le ciel en transparence.
Ben non. D'ailleurs, il y a une petite confusion avec des vrais nuages et les nuages d'œufs. Et donc, eux sont là pour donner la vie, bien sûr. Et ils risquent de la perdre parce que les requins sont déjà là et ils vont profiter de ce moment de distraction, un peu d'excitation, pour essayer de saisir ces poissons. Donc il y a la mort et la vie dans cette même image. Ça se passe au coucher du soleil. Donc il y a les rayons du soleil qui sont juste rasants et qui pénètrent à la faveur de l'orientation d'une vague et qui font ces espèces d'épées jaunes dans le bleu. Donc il y a tout qui est réuni. Mais ce qui m'a le plus fasciné ce jour-là, c'est que c'était le le dernier jour de la dernière expédition qu'on a menée sur cet atoll. On y est allé pendant 5 années consécutives.
Où est-on précisément ? Je ne sais pas si vous l'avez dit encore.
Pardon ?
Où est-on précisément ?
On est sur l'atoll de Fakarava, en Polynésie française.
Toujours en Polynésie française.
Un site classé UNESCO.
Celui des requins, le même.
Et on était au dernier jour. Nous venions de cumuler 3000 heures de plongée nocturne, simplement éclairée à la lumière de la lune et de nos quelques éclairages. Et là, on était dans une lumière naturelle sublime. Il y avait plus du tout cette angoisse de ces plongées nocturnes dans le courant avec cette meute de requins. Et alors, ça a été spontané. On avait quasiment notre matériel déjà rangé, mais on a vu ce remous dans l'eau, tout au bord, juste devant les pontons. On s'est vite mis à l'eau. J'avais même pas de combinaison. L'appareil photo qui était pas encore rangé. Et j'ai pu faire cette prise de vue un peu de manière comme ça, spontanée, sans y avoir trop réfléchi. Et j'ai regardé derrière moi, voir si mes camarades avaient suivi pour filmer aussi cette scène. Et ce que j'ai vu surtout, c'est qu'il y avait deux gamins, un avec son père, l'autre tout seul, des touristes qui étaient là de passage. Je pense que le plus vieux avait 9 ans, il avait encore des brassards au poignet, flottait en surface. Et ce gamin de 8 ans était en train de regarder cette scène de vie et de mort sublime que j'avais jamais vue moi avec mes années de carrière, machin. Et il était là, et il en prenait plein les yeux, il se posait pas la question du danger, de pas du danger. Il y avait pas de danger d'ailleurs, il avait bien raison. Et surtout, je me suis dit, mais comment j'ai pu à un moment me dire que tout ça, comment tout ça a pu me faire peur? Alors que c'était juste de la beauté pure qui était là, une harmonie absolue. Et j'ai réalisé que finalement, oui, le seul vrai danger de tout ça, c'était si ça venait à disparaître, quoi. Voilà. Et donc c'est vraiment un moment de conclusion de plusieurs années. J'ai pris ça un peu comme un cadeau de fin de voyage. Parce que voilà, ça, on y est allé 5 années consécutives voir ces mérous et ces requins.
Et si avec la description de cette photo sublime, tout le monde ne se précipite pas sur l'album de RSF, de Reporters sans frontières, je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. Valérie Chansigo, on reçoit des réactions d'auditeurs et d'auditrices qui sont intéressants sur le site de France Inter. Voici ce que nous écrit Lucie. L'été dernier, j'étais au zoo de Beauval et c'était dingue. Tous les visiteurs appelaient des animaux par les noms de personnages de Disney. La panthère, c'était Bagheera, l'éléphant Dumbo et le phacochère Pumba. Au secours, la pop culture, nous écrit Lucie. Effectivement, il y a une réflexion intéressante à faire sur notre rapport aux animaux via la culture de masse.
Oui, alors c'est un peu compliqué parce que ce que l'on connaît des animaux... Prenons un exemple. Les fables de La Fontaine nous apprennent en définitive très peu sur les animaux eux-mêmes, mais beaucoup plus sur la société de l'époque de La Fontaine.
Ce sont des métaphores de l'espèce humaine, oui.
Exactement. Et en général... presque toujours, lorsque ce sont des animaux utilisés dans des fictions, ils deviennent en fait, comment dire, ils masquent la nature réelle des animaux qu'ils ont derrière. Mickey Mouse n'a rien à voir avec une souris. Le coyote qui poursuit bip bip sans arrêt n'a rien à voir avec les coyotes. Et le problème, c'est qu'on finit par ne voir la nature qu'à travers ces prismes. Et c'est même plus réaliste. On se rend compte, par exemple, que certains enfants sont beaucoup plus capables de reconnaître des animaux exotiques qu'ils n'auront jamais l'occasion de croiser dans leur vie, plutôt que des animaux qu'ils ont au bout de leur porte.
Et pour autant, ça crée un lien d'attachement entre eux et nous.
Est-ce que les dessins animés sur des souris ou des canards chez Disney a favorisé un quelconque lien avec les souris ou les canards dans la vraie vie?
Ou un quelconque mouvement de protection de ces espèces, pas forcément.
On a l'impression que, mais après, il faut vraiment avoir beaucoup de prudence par rapport à ça. Je crois que ça n'a strictement rien à voir.
J'ai échangé un regard intense avec un loup au parc de Guéret, le parc de loups de Guéret, nous écrit Florence. Ça m'a marqué, j'ai ressenti comme une appartenance à la même nature. À côté de ça, mes relations avec les oiseaux sont tendues. J'ai souvent été attaquée par des oiseaux, précise-t-elle, des milans, vautours et mouettes. Même au milieu d'une foule, ils m'attaquent. Je suis méfiante maintenant. C'est intéressant cette distinction entre deux catégories.
Il y a toujours des distinctions et c'est fou parce que ça évolue au fil du temps. Quand on regarde au sein de la population, par exemple au 19e, naît une sorte d'engouement généralisé pour les oiseaux chanteurs, mais pas les rapaces. Les rapaces, on les déteste. Et pire que jusque dans les années 1920-1930, lorsqu'aux États-Unis, la Société de protection des oiseaux fait une réserve ornithologique, on y chasse les rapaces pour protéger les autres oiseaux. Et c'est seulement dans ces années-là qu'il y a une sorte de bascule canicules et les rapaces, peu à peu, deviennent vraiment valorisés aux yeux même des protecteurs des oiseaux. Donc en fait, cette relation ambivalente souvent avec certains animaux que l'on aime et d'autres que l'on déteste, et la plupart que l'on ne voit jamais, c'est quelque chose qui est absolument omniprésent, mais qui est changeant au fil du temps.
Et pour en revenir au requin, Laurent Balesta, c'est assez ambivalent. Voilà, c'est lui qui me fascine dans vos photos, je dois le reconnaître. On le déteste et on l'adore. Il est des deux à la fois. On a peur de lui et il fascine.
Oui, le public, ouais, bah, c'est classique. Hein, on est toujours fasciné par ce qui paraît plus fort et plus puissant que nous. Voilà, je ne sais pas si c'est très sain d'ailleurs comme fascination, mais c'est une réalité. Après, est-ce qu'il est plus fort et plus puissant que nous? Non. Hein. Il y a 100 millions de requins qui sont tués chaque année par l'homme. Il y a 2 morts par an par des requins. Voilà, donc le rapport de force et de puissance, on sait dans quel sens il va. Il y a un fantasme de cette toute puissance du requin. Moi, ce que j'ai vu pendant ces 5 années à Fakarava, c'est des requins maladroits souvent, affamés toujours, qui sortent de leur nuit rarement en satiété. Le plus souvent, ils n'ont rien mangé. Des requins qui, en statistique, mangent à peu près 500 grammes de poisson toutes les semaines. Ah oui. C'est quand même pas, voilà, c'est quand même pas ces fameuses dont on nous parle là, de machines redoutables, une évolution sans faille. Non, c'est pas ça la réalité. Et souvent, on voit dans la proie, dans mon livre, il y a ces photos où on voit ces requins gris, argentés, là, métalliques, presque comme des machines. Et puis, en face de lui, tout petit, un poisson rouge avec un énorme, des yeux énormes. Là, et on a l'impression que forcément, on voit où est le faible et où est le fort. Et c'est complètement faux, parce que ce petit poisson rouge, lui aussi, il est le fruit de millions d'années d'évolution. Et s'il est là, dans cette passe, c'est que c'est un survivor exceptionnel. Il est d'une virtuosité, il connaît parfaitement son environnement, il sait chaque cachette, c'est un virtuose du virage, de l'esquive, et 9 fois sur 10, le requin est bredouille là-dedans. Donc, voilà.
Le mot fascination, on l'a beaucoup employé depuis tout à l'heure, Valérie Chansigaud. Est-ce qu'elle est dangereuse, notre fascination pour les animaux sauvages?
Elle peut l'être. Elle ne l'est pas nécessairement, mais elle peut l'être. Par exemple, parce qu'on va... On a observé, par exemple, un phénomène tout à fait fascinant. Dans certains pays du monde, à partir du moment où on a protégé certaines espèces, la pression sur ces espèces a augmenté. Parce qu'il y avait toujours...
La pression, c'est-à-dire
la chasse, la collecte, etc. Parce que certains collectionneurs fortunés voulaient les choses les plus rares, les plus chères. Et forcément, la protection augmentait le prix de ces animaux-là. Donc, il y a une relation qui peut être à double tranchant, où le fait d'organiser du tourisme qui... Pour observer des animaux sauvages, les animaux sauvages peuvent en souffrir. On a beaucoup d'éléments, par exemple, on étudie les excréments de ces animaux pour rechercher les hormones de stress, et c'est souvent des niveaux de stress extrêmement importants, même si on ne le voit pas. Enfin, si les visiteurs ne le voient pas forcément. Et c'est vraiment un double tranchant. Il faut... la meilleure chose peut-être à faire vis-à-vis des animaux domestiques, les animaux sauvages, pardon, c'est de les laisser vivre libres et tranquilles. Et pas forcément, parce qu'on les aime, d'aller les voir. Ils n'en ont pas forcément besoin.
Un petit pas de côté, Laurent Balesta, le confinement, c'était du petit lait, je crois, pour vous, à côté de ce que vous avez fait l'été dernier. 28 jours dans 5 mètres carrés au fond de l'eau, au fond de la Méditerranée, avec 4 personnes, c'est ça?
Ouais, c'était...
Mais quelle idée?
Quelle idée? Ben, l'idée, pourtant, elle remonte à longtemps. Ça faisait 18 ans que j'espérais pouvoir faire quelque chose comme ça. Et c'est c'est la conséquence d'une frustration. En plongée profonde, on ne peut jamais caler et revenir. C'est des incursions. Quelques minutes à grande profondeur pour des heures et des heures de lente remontée pour l'obligatoire décompression. Alors, c'est quand même très frustrant. Des fois, on a accès, privilège, à des oasis que personne ne visite jamais, à 120 mètres de fond, une forêt de corail noir qui a jamais été visitée. C'est magnifique. On arrive là-dessus, on est le premier à descendre. Et 5 minutes après, il faut quitter les lieux. C'est
vouliez inadmissible. Rester inadmissible.
Et avec ces techniques qu'on n'a pas inventées, hein, qui viennent de la plongée industrielle, qui n'a jamais servi qu'à réparer des pipelines et des plateformes, on avait tout à coup un accès illimité à ces grandes profondeurs. Le prix à payer étant évidemment... Le prix à payer de cette liberté sans équivalent, c'était d'accepter une prison, une petite prison d'acier, 5 mètres carrés pour 4, sans fenêtre, avec un inconfort thermique absolu, puisqu'on est dans une atmosphère d'hélium et que l'hélium soit vous glace le sang, soit vous brûle la peau. Enfin, c'est, voilà. Et puis, nos cordes vocales aussi, paralysées par l'hélium, donc on ne peut pas se parler. Donc voilà, 28 jours un peu comme ça, mais... La conclusion, c'est quoi? C'est qu'on est prêt à recommencer. Donc, c'est que, on a eu un accès privilégié à une Méditerranée réservée. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Un voyage sans se déplacer. On était de Marseille à Monaco, de Monaco à Marseille. Vous voyez, on n'est pas allé bien loin.
Et c'était le bout du monde.
Et on était dans un monde parallèle. Et voilà, j'ai hâte de. J'en parle et je veux surtout le montrer. Tout ça sortira en septembre.
On fait un petit détour par les Pays-Bas pour écouter Benny Sings, Sunny Afternoon. Et oui, pourtant c'est le matin, il est 10h05 et on est bien, c'est l'été comme jamais. I love October, hate in the wind, don't stop. You know love is right around the corner, not this year. Colors faded in me. All I know is I'm getting things in order. It's a sunny afternoon, but I need you here. Nothing without you. It's a sunny afternoon, but I'm freezing in. Hope you're coming back real soon. You are soft spoken. I can't believe it's all gone. You know love is right there where you make it. Just like that. You've got a friend in me. So come on, it's time to celebrate it. It's a sunny afternoon, but I need you here. Nothing without you. It's a sunny afternoon, but I'm freezing in. Hope you're coming back. And I don't want to make a fuss. You had to leave. It's better for the both of us. Plongeur, photographe et une historienne étaient réunis ce matin au micro de France Inter, Laurent Balesta et Valérie Chansego. On approche de la fin de cette émission, de cette première heure d'émission. Je vous pose à présent ma question rituelle, celle que je soumets à tous mes invités. Sur quel sujet avez-vous changé d'avis, Laurent Balesta?
J'ai changé d'avis sur plusieurs sujets, mais j'ai changé d'avis sur mon rapport à l'optimisme et à l'espoir. Je trouve que j'ai passé beaucoup, j'ai consommé trop d'énergie à essayer de garder l'espoir, être optimiste dans les discours, etc. Et qu'en fait, ce n'est pas utile. Non. Parce que, après tout, un optimiste peut simplement se contenter de dire, de toute façon, ça va aller mieux. Et puis, il fait rien. Alors, je crois que optimiste, pessimiste, c'est des postures, c'est immobile. Et je ne me pose plus la question de l'espoir, et au contraire, de se dire que le plus beau des combats, c'est les combats qu'on croit perdus d'avance. Et que, voilà, à défaut d'y croire, au moins il y a du panache. Voilà, c'est ça mon grand changement, je crois, ces dernières années.
L'action plutôt que l'optimisme.
Ouais.
Valérie Chansego, même question.
C'est une question assez redoutable, parce qu'on a l'impression de pouvoir faire une sorte de bilan, comme ça, au soir de sa vie, on regarde...
Ah non, c'est pas le soir, c'est pas le soir.
Mais c'est très compliqué. Moi, j'ai l'impression que... Il y a une chose peut-être que sur lesquelles j'ai changé d'avis, ou en tout cas je me suis renforcée, c'est le fait de ne jamais peut-être répondre aux questions qu'on se pose pas soi-même. C'est-à-dire de se dire, voilà, c'est l'environnement qui m'oblige à m'intéresser à tel sujet de telle façon, et ben je vais le faire parce qu'on me le demande. Mais plutôt d'essayer de voir en quoi ça peut avoir un sens. Et ça, peut-être, il y a un jour où j'ai accepté d'arrêter, d'avoir l'idée d'enfoncer peut-être, je sais pas, d'aller dans un chemin tout tracé parce que c'était...
On reconnaît là l'historienne des sciences. Un grand merci à tous les deux. Valérie Chansigo, Histoire de la domestication animale. Votre prochain livre est attendu pour septembre aux éditions de Delachaux et Niestlé. Le dernier, Combat pour la nature, de la protection de la nature au progrès social chez Buchet-Chastel. Laurent Balesta, L'album pour la liberté de la presse, nouvelle parution de RSF, est en kiosque. Des clichés d'anémones, de méduses et de requins, c'est époustouflant. Et le livre pour enfants aux éditions Plume de Carotte découvre la vie sous-marine avec Laurent Balesta. Et on a bien compris qu'en septembre paraîtrait ce bouquin sur votre
Méditerranée.
Sur votre confinement en Méditerranée. Merci beaucoup à tous les deux et bonne journée sur France Inter.